En ce temps de l'Avent, nous est donc présenté des personnages importants qui nous enseignent à la fois sur notre attitude, sur ce qui se passait, sur ce qui s'est passé déjà au moment de l'avènement de notre Sauveur, il y a 2000 ans, mais aussi qui nous enseignent sur notre attitude, sur ce que, de la manière dont nous devons nous approcher du mystère que nous allons célébrer. Et nous entrons de plus en plus avec le troisième dimanche de l'Avent, dimanche du Gaudete, dimanche de la joie, nous entrons de plus en plus dans la contemplation du mystère de l'incarnation et du mystère du Dieu qui vient nous sauver. Hein, c'est les dimanches précédents, nous étions davantage dans l'attente du Seigneur dans la gloire, même si cette réalité doit toujours rester présente dans notre esprit. Hein, le Seigneur va venir bientôt et il nous faut nous préparer. En nous préparant à la fête de Noël, en contemplant le mystère de l'incarnation, nous nous préparons aussi à la venue du Seigneur qui va venir bientôt. Et donc, le personnage qui nous est présenté encore dans cet évangile, c'est la personne de Jean le Baptiste, hein, qui lui, dans son humilité, vous avez remarqué qu'il ne dit pas qui il est vraiment, il dit ce qu'il n'est pas. Hein, c'est une belle attitude d'humilité. Il ne dit pas qu'il vient avec l'esprit d'Élie, c'est Jésus qui le dit. Hein. Et Jésus, c'est lui qui vient avec l'esprit d'Élie, avec la force d'Élie, pour préparer les chemins du Seigneur. Non, il dit qu'il n'est pas Élie, justement, il dit qu'il n'est pas le Messie. Voilà, donc Saint Jean le Baptiste nous est présenté comme un modèle pour nous, pour nous détourner de nous-mêmes et pour présenter le Christ. Contempler Jésus, présenter le Christ, le contempler et le présenter à nos contemporains. Saint Jean-Baptiste est un modèle pour nous, pour l'évangélisation, pour l'annonce de l'évangile, c'est un modèle. Hein, il nous demande de vivre selon l'évangile et ensuite de présenter Jésus, de savoir nous détourner de nous-mêmes pour présenter un autre qui est plus grand que nous. Et dont nous ne sommes pas dignes non plus de dénouer sa sandale. Et donc, il le dit clairement, il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Alors, les pères de l'Église auront plaisir à commenter ce passage en disant que Jean-Baptiste est la voix et Jésus, c'est la parole, le verbe. Hein, donc, une voix, c'est bien beau, hein, si je crie, ben, j'ai de la voix, mais je ne dis rien. Par contre, la parole que transmet ma voix, là, cette parole vous dit quelque chose, nous pouvons en avoir une compréhension, elle peut même transformer nos vies, cette parole. Et donc, Jésus est vraiment cette parole qui a du sens, qui donne du sens à la vie, et Jean-Baptiste est la voix, et nous sommes nous-mêmes invités à être cette voix. Notre vie chrétienne, c'est d'être la voix du Seigneur, mais dans laquelle la parole, le verbe Jésus, prend chair. Hein, c'est-à-dire que nous vivons, nous ne sommes pas le Messie évidemment, mais nous vivons de façon à ce que le verbe, à ce que Jésus soit entendu, soit reconnu, mais nous ne sommes que des porte-paroles. Voilà, donc ça c'est la première personnalité, c'est Jean-Baptiste qui nous est présenté actuellement. Deuxième personne qui nous est présentée, alors on l'a entendu dans le psaume, en fait, aujourd'hui ce n'est pas un psaume, c'est le cantique du Magnificat. Et donc c'est la louange de la Vierge Marie, la joie de Marie. Et là aussi, c'est très beau de voir comment Marie rentre dans ce mystère, hein, par la foi, mais aussi par la joie et par la contemplation du fait que le Seigneur élève les humbles. Et c'est un élément très important de la vie chrétienne, c'est qu'on ne peut pas être chrétien si on ne cherche... J'allais dire si on n'est pas humble, mais alors chacun va se dire, mais mince, on n'est pas chrétien. Alors. Voilà. Mais en tout cas, si on ne cherche pas à être humble, à accepter, à être pauvre, à rentrer dans une attitude de pauvreté, et c'est parce qu'on entre dans cette attitude de pauvreté, d'humilité, que l'on peut contempler la merveille de Dieu. La merveille en nous, la merveille dans le monde, la merveille dans les autres. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, on est déçu, ou bien on est orgueilleux et on est satisfait de soi-même. Et l'un et l'autre ne sont pas bons. Ce n'est pas chrétien. Par contre, entrer dans l'attitude de la Vierge Marie, d'être un humble serviteur, une humble servante, et donc le Seigneur élève les humbles. Hein, voilà, donc Marie nous aide, alors c'est un aspect seulement que je vous développe, mais à cause du Magnificat. Et enfin, je voulais aussi vous dire un mot d'un troisième personnage que l'on voit peu dans les évangiles, qui est toujours très discret, c'est Saint Joseph. Et vous savez sans doute que depuis le 8 décembre dernier, le Saint-Père nous a surpris, comme il sait le faire parfois, puisqu'il a signé une lettre apostolique, Patris Cordae, hein, le cœur de père, un cœur de père, une lettre apostolique sur Saint Joseph. Et le but de sa lettre, il le dit clairement, il dit, c'est de faire connaître et aimer Saint Joseph. Il souhaite que nous redécouvrions Saint Joseph et il pense que dans ce contexte un peu compliqué, avec la pandémie et tout ça, nous avons besoin de Saint Joseph, nous avons besoin de son intercession, nous avons besoin de contempler ses vertus, les vertus de Joseph. Et il a décidé donc à partir du 8 décembre dernier jusqu'au 8 décembre l'année prochaine que ce serait une année de Saint Joseph, une année Saint Joseph. Donc il nous a un peu surpris. Cette lettre, je vous invite à en prendre connaissance, elle n'est pas très longue, hein. Donc c'est assez vite lu, mais elle est riche d'enseignements. Le Saint-Père nous partage des points que les spirituels, le magistère aussi, les papes nous ont donné déjà durant les années écoulées. Vous savez que Saint Joseph, on a commencé à vraiment l'honorer de façon plus explicite à partir à peu près du XVIIe siècle. Avant, Saint Joseph n'était pas mis en avant pour une raison très simple, et c'est pour ça que les évangiles sont si discrets dessus, c'est qu'il ne fallait surtout pas que Saint Joseph prenne la place du Père du Ciel de Jésus. Il fallait bien qu'on reconnaisse que la paternité de Jésus, c'était son Père du Ciel. Donc, et que Joseph était qu'un humble serviteur, lui aussi, qui allait assurer une paternité terrestre, mais Jésus est le Fils de Dieu avant tout, le Fils du Père. Et donc Saint Joseph, le magistère l'a développé durant les derniers siècles, on va dire, et il nous invite, et aujourd'hui nous avons besoin, hein, c'est comme ça que ça se passe dans l'Église, le Saint-Esprit pousse l'Église à développer certains aspects de la foi, et ensuite nous en avons besoin, hein, ça veut dire que ça correspond à aujourd'hui, on a besoin de Saint Joseph, hein, au XVe siècle peut-être que ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui nous avons besoin de nous tourner vers Saint Joseph, de contempler ses personnalités. Alors il y a plusieurs points que je vais vous évoquer très rapidement, qui sont évoqués dans cette lettre. Alors vous trouvez cette lettre donc sur internet, hein, sur le site du Vatican par exemple, il suffit de chercher, hein, ou bien Saint Joseph, Pape François, je pense qu'on trouve aussi facilement. Mais prenez pas des résumés, prenez le texte, c'est pas très long, vaut mieux prendre les textes, parce que les résumés c'est bien beau, c'est ce que je vous fais, mais c'est repris à la sauce de quelqu'un, donc c'est moins bien. Voilà. Alors, il développe en 7 points, le Saint-Père. Premier point, c'est que Saint-Joseph est un père aimé du peuple de Dieu. Donc, il développe cet aspect-là. Ensuite, le deuxième point, c'est un père qui vit dans la tendresse de Dieu, dans la confiance, en la providence, dans l'œuvre de Dieu, qui se réalise même dans nos pauvretés. Hein, tout cela, c'est même un enseignement, c'est vraiment un enseignement pour nous. La confiance dans la providence, l'œuvre de Dieu qui se réalise dans notre pauvreté. C'est un père dans l'obéissance parfaite à Dieu et sans hésitation. Hein, ce domaine de l'obéissance est un point très important qu'aujourd'hui on ne comprend pas toujours très bien, malheureusement. C'est un père qui est dans l'accueil, qui accueille. Il accueille Marie, dans le mystère de Marie et de l'incarnation. Il accueille les événements de sa vie de façon positive. Il ne contrôle pas sa vie, hein, vraiment. Hein. Il l'accueille. Mais il accueille de façon les événements de façon positive, ça c'est un point important aussi pour nous, et active, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la passivité. Il accueille et ensuite il marche, il avance, il prend des décisions. C'est un père, c'est un homme qui avance. Il accueille aussi les autres et les plus petits, dit le Saint-Père. Ensuite, dans le cinquième point, il dit que c'est un père au courage créatif. En toutes circonstances, il ne se laisse pas désarmer en toutes circonstances. Il invente, il décide des choses. Il est créatif et courageux. Hein. Et le Dieu, il dit, le Saint-Père nous dit, Dieu compte sur lui pour s'occuper de Marie et de Jésus. Dieu compte sur lui. Et donc, il va lui envoyer souvent un ange, plusieurs fois, au moins quatre fois, je crois. Mais il y a plein d'autres moments où il n'envoie personne. Et donc, c'est Saint Joseph qui prend les choses en main. Il compte sur lui pour prendre soin de Jésus et de Marie. Et donc, aujourd'hui, nous dit le Saint-Père, Saint Joseph prend soin de l'Église aussi, hein, qui continue l'incarnation du Christ, du Fils, de Jésus. C'est un père travailleur. Donc c'est un modèle du travailleur, et il est protecteur des travailleurs, et le Saint-Père nous dit, aujourd'hui, même dans les pays riches, il y a du chômage, et donc il nous faut prier Saint-Joseph pour tous ces gens qui n'ont pas de travail et qui se déshumanisent à cause de cela, parce que ça fait partie de notre vocation que de travailler à nous, les hommes, et les femmes aussi. Voilà, bien sûr. Ça, vous l'avez deviné. Ensuite, il y a un très beau passage que je vous... Alors, si vous avez qu'un passage à lire, c'est peut-être celui-là. C'est la fin, c'est le numéro 7. C'est facile à retenir, la plénitude, numéro 7. C'est un père dans l'ombre du père. C'est un très très beau passage sur la paternité, sur la nécessité de la paternité, sur l'importance de cette paternité. Et de cette paternité divine qui se reflète dans des paternités humaines. Et le pape parle d'abord des évêques et des prêtres, en disant qu'ils doivent avoir une paternité spirituelle qui est nécessaire et importante. Ensuite, il parle évidemment de la paternité biologique, ô combien important. Et il invite, et c'est pour cela que je vous invite vraiment à le relire, hein, que vous soyez homme ou femme, à vivre cette paternité de façon juste. Et donc, que cet exercice de la paternité se fasse, dit-il, sans possession, sans posséder, hein, ce n'est pas un pouvoir qu'on exerce, c'est un service, sans posséder celui sur lequel on exerce une paternité, mais dans le don de soi, qu'il soit vécu dans le don de soi au service de la croissance et de la vie. Voilà. Donc je vous invite à prendre connaissance de cette lettre, à lire particulièrement ce septième paragraphe, qui n'est pas non plus très long, hein, et puis de méditer aussi, peut-être il faut le lire aussi dans la prière, je pense, ça peut être bien. Voilà, et puis le Saint-Père termine par ceci, une prière et une petite introduction que je vais vous lire maintenant pour terminer cette homélie. Il ne reste qu'à implorer Saint-Joseph, la grâce des grâces, notre conversion. Demander la conversion à Saint-Joseph. Nous lui adressons notre prière. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. À toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage. Défends-nous de tout mal. Amen.